Et dans 15 minutes de plus ce matin, j'ai le bonheur de recevoir un chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau, neurologue à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est également professeur à la Sorbonne et il publie « Sujet, es-tu là ?», le recueil de ses chroniques tenues pendant un an sur France Culture et prolongé de commentaires, d'imageries, de schémas. On va y revenir. Bonjour Lionel Nakache.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue. Vous savez que tous les vendredis, on démarre avec une expérience de pensée. On est là, vous et moi, dans ce studio de France Inter, et nous avons chacun ce que vous appelez notre cinéma intérieur. Je suis là, je vous regarde, et réciproquement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce cinéma intérieur? Ça veut dire que... À quoi ressemble le film?
Exactement. Alors peut-être le point de départ, c'est ça, c'est qu'effectivement, on est face à face, et je pense que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, sans doute la plupart d'entre eux ont aussi les yeux ouverts, donc ils voient quelque chose devant eux. Et en fait, si on commence par rentrer au cœur de notre regard subjectif, comment nous percevons, nous, à la première personne, le monde, ce que je vois de vous, ce que vous voyez de moi, eh bien, on a quelque chose qui a une sorte d'étoffe d'un film. On perçoit une continuité, en fait, on a l'impression de voir un film de ce qui se passe. Si, par exemple, je bouge mon bras, là, devant vous, oui. Ou si quelqu'un rentrait ou sortait du studio, eh bien, on verrait le mouvement animé, l'impression de pouvoir suivre le mouvement de manière continue, comme au cinéma, comme dans un film. Mais dès lors qu'on plonge dans les rouages cérébraux de cette subjectivité, ce qu'on découvre, c'est tout autre. C'est qu'en fait, pour le dire vite, notre système nerveux, notre cerveau, va faire des sortes de captures d'écran à chaque instant, de quelques bribes de ce qu'il y a dehors, dans le monde extérieur. Une capture, et puis une seconde, et une troisième. Et dans une sorte de salle de montage interne, à partir de ces images fixes, il va construire le film continu, le film animé. Et donc là, on est vraiment au cœur de l'analogie cinématographique. Et non seulement ce film continu, donc notre cerveau mouline des images fixes en un film continu. Et on le comprend parce que sinon, ça serait impossible de traiter tout le monde vraiment en temps continu et intégralement. Donc on prend des bribes d'informations. Évidemment, on ne le sait pas, ce n'est pas conscient ce processus, des bribes d'informations, et non seulement à partir de ces bribes, de ces images fixes, on fait un film, d'où le cinéma intérieur, mais oui. En plus, il y a plein d'effets spéciaux. Par exemple, on voit bien la couleur au centre, mais quasiment pas en périphérie. Il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas, mais pour autant, quand vous avez les yeux ouverts, vous avez l'impression de voir un monde visuel qui est uniformément riche et coloré. Tout ça, ça relève de ce que j'appelle le cinéma intérieur.
Et ça, est-ce que ça peut, pour vous qui êtes scientifique, être représenté, compris, mis en scène pour le coup, puisque vous êtes quasiment un metteur en scène, comme neurologue et comme neuroscientifique, par imagerie, par exemple?
Oui, alors les outils d'imagerie cérébrale fonctionnelle, ils nous permettent d'ouvrir vraiment la fenêtre. On est loin de tout maîtriser, mais de commencer à voir les propriétés de ce cinéma intérieur. Et un des aspects qui me semble fascinant aussi, c'est que dans ce cinéma intérieur, ce cinéma est plus complexe que le cinéma qu'on connaît. Pourquoi ? Parce que dans ce cinéma intérieur, si on veut le dire ainsi, nous sommes à la fois le projecteur, je veux dire la caméra qui prend les images, nous sommes le projecteur, nous sommes l'écran, nous sommes la salle de montage, nous sommes le scénariste, nous sommes le spectateur, nous sommes tout à la fois dans ce cinéma intérieur. Et c'est ça qui est vertigineux.
C'est quelque chose d'individuel. Et c'est quelque chose de collectif, et c'est ce qui est surprenant à vous lire, c'est-à-dire que vous expliquez que ce cinéma intérieur, il faudrait parler de nos cinémas intérieurs, chacun a le sien, mais ils peuvent se synchroniser. Par Absolument. Exemple, quand on est arrivé ce matin, tous à la rédaction de France Inter pour préparer la matinale, c'est comme si quelque chose s'était déclenché dans nos cerveaux simultanément et qu'on s'harmonisait.
C'est exactement ça. Il y a des mécanismes en fait de resynchronisation, une sorte de refasage, de resynchronisation, et c'est assez poétique, même si vous vous baladez dans la rue ou même ici, et vous vous dites, voilà, là, on est là, on est deux, on a chacun notre cinéma intérieur en bandoulière qui tourne comme ça, et quand vous êtes dans une rue avec des gens qui passent, parfois, sans être trop lyrique, vous pouvez vous arrêter et vous dire, oui, il y a tous ces cinémas intérieurs qui tournent chacun, et parfois, il y a des événements qui vont nous synchroniser transitoirement, alors qu'on est des parfaits inconnus les uns pour les autres, la plupart du temps.
Comme si on appuyait sur reset.
Oui, et parce que
comme une rentrée des classes.
Oui, et ça, pourquoi je le dis? Parce que dans les années 60, on découvre un nouveau mécanisme, on découvre ce mécanisme de resynchronisation cérébrale. Et de manière très simple, ce que l'on fait, c'est que si on vous présente par exemple sur un écran une image ou un son, et dont on vous apprend que ce premier son ou cette première image est annonciatrice d'une deuxième image ou d'un deuxième son, de quelque chose qui va venir. Donc ça vous déclenche un processus d'attente. Et bien dès lors que vous avez pris conscience du premier stimulus, vous avez un processus, un minuteur cérébral, et dont on peut mesurer les ondes facilement, on appelle ça une CNV, et qui va en fait... comptez le temps, vraiment, projetez toutes vos anticipations de ce qui devrait advenir bientôt, et puis dès que vous prenez conscience du deuxième stimulus, eh bien ce minuteur se remet à zéro. Donc effectivement, il faut imaginer nos cinémas intérieurs un peu indépendants, un peu individualistes, mais qui peuvent parfois se resynchroniser comme ça par des événements qui nous mettent au diapason en fait.
Alors ce qui est assez génial, c'est que vous nous faites remonter même aux origines du cinéma, quand on avait encore des films et qu'on pouvait voir image par image. Oui. Mais une deuxième expérience de pensée, Lionel Nakache, puisque vous parliez du temps. C'est le cas de beaucoup de nos auditeurs pendant qu'ils nous écoutent. Il faut s'imaginer quelqu'un qui a son smartphone à la main et qui a une notification qui apparaît. Une information, qu'elle soit vraie ou fausse, peu importe, mais une information nous est délivrée. Notre perception se joue en deux temps successifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Oui, c'est une des découvertes les plus profondes. C'est qu'en fait, si vous êtes, on reprend votre image, cette expérience de pensée, on est face à un écran, un smartphone, on scrolle, on voit un écran. Ce qu'il se passe, c'est que l'information lumineuse va frapper vos rétines. Et là, c'est la vitesse de la lumière, donc la distance de l'écran, on peut dire que le temps est nul, c'est immédiat. Par contre, il va falloir un premier temps, à peu près 70 millièmes de seconde, donc presque un dixième de seconde, pour que votre cerveau commence à traiter cette information. Ça prend du temps, tout ça. Et quand votre cerveau, prenons une image, le cerveau visuel, vous savez, les régions visuelles sont à l'arrière du cerveau. Il y a un premier temps dans lequel, à partir de 1 dixième jusqu'à 2 dixièmes de seconde à peu près, il y a une traversée, en fait, votre cerveau va être entièrement traversé, une sorte de coup de balai de l'arrière vers l'avant, et plein de processus inconscients vont commencer à construire les représentations visuelles de ce qu'il y a sur votre écran.
Et même si c'est inconscient.
Alors là, c'est totalement inconscient à ce moment-là, c'est-à-dire que ce que je veux dire par inconscient, c'est que vous n'êtes pas capable de vous rapporter encore le stimulus, vous ne savez pas qu'il y a quelque chose devant vous.
Mais il y a un mot qui peut apparaître.
Alors, il y a un mot qui est apparu, mais surtout, moi, par exemple, pendant ma thèse de science, j'ai montré que le sens d'un mot, la sémantique d'un mot ou d'un nombre, d'une image, elle peut être analysée de manière totalement inconsciente pendant ce premier temps de la perception. Et parfois, il y a un deuxième temps, à peu près vers 3 dixièmes de seconde, vraiment on a l'horlogerie suisse de cette mécanisme de la subjectivité.
De haute précision.
Vous prenez conscience, cette information devient accessible à un espace mental conscient. Et là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prise de conscience, c'est le début de votre aventure consciente. Vous prenez conscience de quelque chose qui a été préparé dans les coulisses de votre cinéma intérieur, et là, normalement, selon un temps plus ou moins long, vous allez pouvoir le modifier, prendre
de la distance. Ça, c'est la deuxième étape de la perception.
C'est le deuxième temps de la perception, voilà. Voilà. Et ça, c'est un phénomène intemporel. Ça existe chez des primates non humains, ça existe dans d'autres espèces animales. C'est comme ça que nous sommes faits, en fait.
Ça peut durer des jours, ça peut durer même parfois une vie, ça peut durer quelques minutes.
Exactement, c'est que ce premier temps, il est à chaque fois, lui, très riche, mais très évanescent et pas conscient. Et par contre, le deuxième temps, qui est marqué par le début, par la prise de conscience, lui, par contre, il n'est pas borné. C'est-à-dire qu'il peut être, comme vous le dites, illimité. On peut y réfléchir longtemps, exercer notre esprit critique, imaginer des choses, penser des choses nouvelles à partir de ça, se rappeler des souvenirs. On rentre dans vraiment la mécanique de la subjectivité.
La mécanique de la subjectivité, mais il y a quelque chose qui est assez étonnant quand on est face à un neurologue, c'est de le voir écrire, réfléchir sur l'empathie. Oui. On va faire une autre expérience de pensée, toujours avec notre téléphone portable. On est humain, peut-être trop humain, on est sur les réseaux sociaux, on voit une image, une vidéo d'une scène de violence, de souffrance, et on est en empathie, mais vous distinguez deux formes d'empathie, Lionel Nakache.
Absolument, Libadou. Et ces deux formes rebondissent sur ce qu'on vient de dire sur les deux temps de la perception. Alors, pour le dire vraiment de manière synthétique, vous êtes face à une image de souffrance ou une vidéo de souffrance ou quelqu'un qui souffre devant vous. Eh bien, le premier temps de traitement de l'information visuelle, ou pas que visuelle, va construire un mécanisme qui va mobiliser votre empathie, quand vous allez prendre conscience de quelqu'un qui souffre. Cette première empathie, donc celle qui est immédiate, dont vous prenez conscience de manière irrépressible, c'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, sans effort, c'est très rapide, c'est presque automatique. Et elle est très puissante, elle est très importante. C'est comme quand vous passez dans la rue et que vous voyez quelqu'un au sol, c'est cette première émotion, cette première empathie qui va vous attirer l'attention. Alors cette empathie, on l'appelle l'empathie miroir.
Miroir.
Parce qu'elle est très précieuse, mais d'une certaine manière, c'est une empathie qui fait que vous avez de l'empathie parce que la personne que vous voyez souffrir, c'est vous. C'est comme si c'était vous, en fait. Et il y a une deuxième empathie qu'on peut mobiliser, mais qui demande plus de temps, plus de volonté, plus de détermination. C'est une empathie qu'on appelle décentrée, dans laquelle vous allez pouvoir mobiliser encore, et parfois plus fort encore, vos sentiments d'empathie. Mais vous allez avoir de l'empathie, non pas parce que ça pourrait être vous, vous savez que ce n'est pas vous, vous savez que c'est quelqu'un d'autre. Et cette deuxième forme d'empathie, qui est plus difficile à mobiliser, elle est également plus universelle, parce qu'elle elle est plus altruiste, parce que vous pouvez l'exercer même avec des personnes qui sont loin de vous. Il y a beaucoup d'études sur, par exemple, les effets de genre, les effets d'ethnie, les effets d'âge, les effets de prénom. Parfois, la première empathie, vraiment, elle est très importante aussi, hein. Je suis pas en train d'en dévaloriser une au profit de l'autre,
non,
mais on a besoin des deux, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne, mais une première, c'est identificatoire, et la deuxième est altruiste au sens général. Et là où on peut arriver, c'est que face, on revient au smartphone dont vous parliez.
Oui, on est bombardé malgré tout.
Comme nous sommes bombardés, eh bien, je pense qu'une des conséquences, c'est que dans cet équilibre subtil entre les deux empathies, les deux à nouveau sont vitales, on a parfois un déséquilibre au profit de la première empathie. C'est-à-dire qu'en fait, on est enfermé dans l'empathie miroir, parce que dès lors qu'on a exercé cette empathie, il y a autre chose qui vient nous saisir, et on passe à autre chose.
On passe à autre chose. Alors justement, c'est aussi très surprenant, Lionel Nakache, d'entendre un de nos très grands scientifiques poser cette question: sujet, es-tu là ? On a l'impression d'être avec Victor Hugo ou avec des spiritistes quand on appelle l'esprit. Esprit, es-tu là ? Vous vous demandez: sujet, es-tu là ? On va écouter justement à propos de l'esprit des vœux, les derniers vœux que prononçait François Mitterrand le 31 décembre 1994.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai
c'est
pas.
C'est une phrase qui est évidemment très émouvante et on se souvient de cette période pour ceux qui l'ont entendu, vécu en live ou ceux qui l'ont ensuite entendu après. Moi, ce qui me touche,
c'est que... Ce n'est pas un jugement politique et ce n'est pas une question de religion, de croyance ou non.
Non, mais c'est-à-dire que je pense, sans vouloir trop m'avancer, que François Mitterrand, lorsqu'il disait ça, dans ses paroles, on entend quelque chose qui renvoie la notion d'esprit à la notion de spiritualité, voire de mystique, en tout cas d'un au-delà de la mort, d'un au-delà d'une vie, d'au-delà de la vie corporelle. Mais on peut aussi entendre la phrase de François Mitterrand en donnant au mot esprit le nom de vie mentale, l'esprit, le mind en anglais. Et ça, ça veut dire que croire aux forces de l'esprit, c'est aussi, c'est la force de la subjectivité, c'est rendre compte que dans notre vie quotidienne, la force de notre subjectivité est omniprésente. Quand vous fermez les yeux, vous faites naître une image dans votre esprit, c'est les forces de l'esprit. Quand vous rêvez la nuit, c'est les forces de l'esprit. Quand vous prenez un placebo, mais que par la force de la croyance, vous arrivez à diminuer une douleur ou quelque chose, c'est l'effet, c'est la force de l'esprit, et on pourrait les démultiplier. Et donc, une façon de reprendre confiance en notre subjectivité, c'est de voir toute cette richesse, en fait, qui est ici, et que nous devons exercer pour aider à épanouir notre vie subjective.
Seras-tu là ? Seras-tu là, Lionel Nakache ? Il nous reste très peu de temps,
oui,
mais...
seras-tu là ? Donc, évidemment, sujet, es-tu là ? Je pensais aussi à la chanson de Michel Berger, parce qu'il y a une sorte d'adresse de supplique. Est-ce subjectivité, mon sujet, ma subjectivité ? Est-ce que tu seras là quand j'en aurai besoin ? Est-ce que tu seras là malgré toutes les menaces contemporaines, une sorte d'angoisse de disparition du sujet ? Et pour le dire très vite, je crois que face à l'angoisse de la disparition du sujet, on peut faire deux choses. Se rassurer. Notre subjectivité, tant que nous sommes conscients, ne va pas disparaître. Par contre, les vraies menaces qui sont portées contre elle, c'est la capacité pour nous, pour chacun d'entre nous, à épanouir notre subjectivité, à lui donner toute sa richesse. Et le premier pas pour moi, c'est de prendre conscience en fait de cette subjectivité. Et ça me permet de faire un clin d'œil à ma femme Karine, qui avait trouvé, lorsque je cherchais le titre de ce livre, cette formule « Sujet, es-tu là ?» qui me semblait vraiment capturer un des thèmes centraux, c'est comment nous redonner confiance dans notre vie subjective.
Et ben, ce sera justement la morale de cette histoire, Lionel Nakache. Et on pourrait prolonger le sujet est un sujet sans fin. Ce ne sera jamais la fin du sujet. C'est assez passionnant et c'est assez extraordinaire quand on pense aux matérialistes et aux tous ceux qui voudraient réduire justement le cerveau ou notre personne à des ondes électriques ou à que sais-je encore. Merci infiniment Lionel Nakache d'avoir été l'invité d'Inter. Sujet, es-tu là ? Point d'interrogation, c'est publié chez Odile Jacob, France Culture, des dialogues que vous avez menés avec le camarade Guillaume Erner.